VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition du mardi 5 mai 2015. À la une ce soir.
Burundi, la Cour constitutionnelle a validé ce mardi la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat présidentiel.
Mali, Bamako reste confiant en la signature d'un accord de paix le 15 mai, alors que des attaques persistent dans le nord.
Ici aux États-Unis, le président Barack Obama annonce une nouvelle phase de son programme en faveur des couches défavorisées.
Le groupe État islamique revendique sa première attaque sur le sol américain, celle ayant fait 3 morts dimanche au Texas.
Nous parlerons aussi de la visite historique du secrétaire d'État John Kerry en Somalie.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
La Cour constitutionnelle du Burundi a validé ce mardi la candidature du chef de l'État, Pierre Nkurunziza, à un troisième mandat présidentiel. Cette candidature, objet de controverses, est la cause de remous qui secouent le pays. Félix Yepassi-Zembro.
Le renouvellement, une seule et dernière fois, de l'actuel mandat présidentiel au suffrage universel direct pour 5 ans n'est pas contraire à la constitution du Burundi, dit l'arrêt signé par 6 juges sur 7. Le vice-président de la Cour a, lui, refusé de signer et fuit le pays, dénonçant des pressions sur la Cour pour qu'elle valide la candidature. Pierre Nkurunziza a déjà été élu 2 fois, en 2005, après les accords d'Arusha par le Parlement, et en 2010, au suffrage universel direct. Le 25 avril dernier, son parti, le CNDD-FDD, l'a désigné candidat à la présidentielle du 26 juin. Cette désignation a déclenché une série de manifestations d'opposants à un troisième mandat qu'il juge inconstitutionnel et contraire aux accords d'Arusha qui avaient mis fin à la guerre civile de 1993 à 2006. Par ailleurs, le gouvernement burundais s'est dit prêt aujourd'hui à libérer les manifestants arrêtés et rouvrir les radios fermées depuis le début de la contestation. Les émeutes ont forcé au moins 24 000 Burundais à fuir vers le Rwanda voisin.
Le ministre malien de la Réconciliation nationale a affirmé à Alger que la transgression du cessez-le-feu dans son pays ne devait pas avoir d'influence sur la signature de l'accord de paix entre le gouvernement et les rebelles du Nord, prévu le 15 mai. On fait le point avec Idriss Fall.
La transgression du cessez-le-feu et les violences à Menaka et Léré ne devraient pas influer sur le processus de paix, a déclaré Ould Sid Mohamed Zahabi en visite à Alger. Selon lui, la solution définitive à cette situation consistant en l'accord de paix et de réconciliation nationale dont la signature est programmée pour le 15 mai prochain à Bamako. La rébellion avait donné son accord pour paraffer le document, mais a estimé avoir été attaquée à Menaka le 27 avril par les Gacha, une milice proche de Bamako. Depuis, les affrontements meurtriers ont eu lieu à Léré. 2 membres de la garde nationale ont été abattus à Gundam et aujourd'hui, les rebelles de la CMA ont attaqué la ville de Ténénkou dans la région de Mopti. La mission de l'ONU au Mali exhorte tous les protagonistes à cesser les hostilités et à évacuer les positions nouvellement occupées.
République centrafricaine, les chefs de 8 groupes armés centrafricains s'engagent à relâcher plusieurs milliers d'enfants soldats. Dans un accord signé en marge du forum de Bangui, ils promettent aussi de mettre fin au recrutement d'enfants. D'après l'AFP, plusieurs factions de l'ex-rébellion Séléka et les milices anti-Balaka figurent parmi les signataires.
Côte d'Ivoire, l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 démarrera en juillet. C'est ce qu'annonce la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes citées par l'AFP. Les dernières victimes souhaitant être indemnisées sont donc appelés à venir se faire recenser du 11 mai au 11 juin.
République démocratique du Congo, le militant Fred Boma du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha, a été transféré ce mardi à la prison centrale de Kinshasa. Il n'a pas été inculpé, a déclaré à l'AFP maître Sylvain Lumou, son avocat. Il a été transféré sans avoir pu parler à un magistrat. Il n'a pas été auditionné au parquet, il ne sait pas de quoi il est inculpé, ni quelle va être la suite de ce dossier, a précisé à l'AFP une source diplomatique.
Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, s'est rendu en Somalie. C'est une visite historique, car aucun chef de la diplomatie américaine n'avait jamais visité ce pays. Monsieur Kerry a rencontré à Mogadiscio le président Hassan Sheikh Mohamud et a plaidé pour le bon déroulement des législatives de 2016. Bagassi Koura.
John Kerry a été accueilli peu avant midi par le président Hassan Sheikh Mohamud, le premier ministre et d'autres responsables somaliens. C'est là que John Kerry est resté cantonné pour des raisons de sécurité. En plus du président, le secrétaire d'État s'est entretenu avec des responsables somaliens régionaux. Selon la porte-parole du département d'État, Mary Harf, John Kerry devait discuter des questions de coopération sécuritaire et des efforts de stabilisation du pays à l'approche des élections de 2016. La capitale somalienne est devenue beaucoup plus paisible ces dernières années, mais le gouvernement est régulièrement en proie à des attaques suicides du groupe Al-Shabaab. À l'aéroport, Kerry a exprimé l'espoir que la Somalie fera des progrès, souhaitant, je cite, « la prochaine fois que je viens ici, nous devons être en mesure de marcher au centre-ville ». Fin de citation. Hier, à Nairobi, au Kenya, Kerry a promis 45 millions de dollars supplémentaires au HCR pour prendre en charge les réfugiés somaliens.
Tragédie en Méditerranée, près de 40 migrants se sont noyés dimanche, rapporte l'ONG Save the Children. Leur canot pneumatique se serait dégonflé ou aurait explosé alors qu'ils tentaient de rejoindre les côtes de l'Italie. On compte désormais plus de 1750 migrants morts en Méditerranée rien que cette année.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque de dimanche sur un centre de conférence près de Dallas, au Texas, où se tenait un concours de caricatures du prophète Mahomet. On fait le point avec Lionel Gaïma.
Le groupe extrémiste a fait l'annonce ce mardi sur la station de radio en disant, je cite, deux de soldats du califat ont mené l'attaque de dimanche dans la ville de Garland. La police a identifié les assaillants comme étant Elton Simpson et Nadir Soufi. Les deux ont ouvert le feu sur le centre de conférence, blessant un garde de sécurité avant d'être abattu par des policiers. Les documents judiciaires montrent que Simpson était sous surveillance depuis 2006 et accusé en 2010 d'avoir menti à des agents du FBI à propos de sa volonté de rejoindre le djihad en Somalie. Lundi, des agents du FBI et de la police ont fouillé le domicile de deux hommes en Phoenix, dans l'Arizona. L'association Initiative américaine de défense de la liberté a parrainé l'événement, offrant un prix de 10 000 $ pour le vainqueur. En janvier dernier, deux hommes armés ont attaqué à Paris le magazine satirique français Charlie Hebdo, qui a présenté plusieurs caricatures du prophète Mahomet. L'attaque avait fait 12 morts dans la rédaction.
L'Union européenne se dit confiante en la capacité de la Grèce et de ses créanciers à maintenir le pays solvable dans la zone euro. Athènes a accéléré ses efforts diplomatiques en vue de prévenir une cessation de paiement. Les institutions internationales de financement exigent des réformes économiques et des mesures budgétaires avant de verser au gouvernement grec la dernière tranche de 7,7 milliards de dollars de son plan de sauvetage économique.
Le président français François Hollande a rappelé aujourd'hui en Arabie Saoudite, l'un des pays au monde où les exécutions capitales sont en forte augmentation, que son pays, c'est-à-dire la France, militait pour l'abolition de la peine de mort. L'Arabie Saoudite, rappelle l'AFP, est régulièrement critiquée par les organisations de défense des droits de l'homme pour les exécutions de condamnés à mort qui sont généralement décapités. Le nombre de ces exécutions est en forte augmentation. Il y en a eu 78 depuis le 1er janvier.
Un nouveau chef d'état-major général pour les forces armées américaines. Le président Barack Obama a annoncé ce mardi la nomination du commandant des marines, le général Joseph Dunford, pour succéder au général Martin Dempsey. Devenu officier des marines en 1977, Dunford serait le deuxième commandant de ce corps d'armée à occuper ce poste. Le premier était le général Peter Pace de 2005 à 2007.
Les livraisons d'aide continuent au Népal, où certaines zones sont encore difficiles d'accès, plus d'une semaine après le violent séisme qui a secoué le pays. Le gouvernement a déclaré un total de plus de 7 500 morts et environ 14 500 blessés, soulignant que le bilan sera probablement beaucoup plus élevé quand les zones reculées seront accessibles. Les Nations Unies ont de leur côté fait état de 8 millions de sinistrés, soit plus d'un quart de la population du Népal. Hier lundi, l'UNICEF a annoncé l'arrivée de 40 tonnes d'aide pour prévenir toute maladie due à l'eau non potable au Népal.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Jean-Roger Billon.
Un tribunal nigérien a ordonné l'extradition vers la Grande-Bretagne d'un ancien haut fonctionnaire du ministère des Finances, accusé d'avoir accepté des pots de vin en échange de contrats d'impression de billets de banque. L'intéressé Emmanuel Okoyomon était le directeur de l'agence nigériane de frappe de pièces et d'impression de billets en 2006 quand une entreprise australienne, Securency International, a été choisie pour produire de petites coupures de Naira, la monnaie nigériane en billets de polymère. Les autorités britanniques ont réclamé l'extradition de M. Okoyomon après avoir eu la preuve que celui-ci avait effectué 6 virements provenant tous de Securency International sur son compte personnel en Grande-Bretagne et le soupçonnant d'avoir reçu cet argent en échange du contrat au Nigeria. Au moins 5 personnes ont été tuées et une dizaine sont portées disparues après l'éboulement d'une mine d'or artisanale dans le nord du Burkina Faso. L'accident s'est produit près de la ville de Djibo, a déclaré à l'AFP Saïdou Maïga, le ministre de l'Environnement qui s'est rendu sur les lieux. Et la zone euro va profiter cette année d'une embellie économique. Elle va engranger une croissance légèrement meilleure que prévu en évitant la déflation, essentiellement grâce à une série de facteurs externes, ce qui doit l'inciter à poursuivre les réformes selon Bruxelles. La croissance devrait atteindre 1,5% cette année contre 1,3% selon les précédentes prévisions publiées en février.
Voilà pour la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Et maintenant, Bagassi Koura est en studio pour la page sport. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Football africain, tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions.
Oui, le groupe B rassemblera les 3 clubs algériens encore en course, à savoir l'AS Sétif, l'USM Alger, le MCL Oulma ainsi qu'El Merrek du Soudan. Dans le groupe A, le TP Mazembe devra se méfier du Maghreb de Tétouan, tombeur d'Al Ahly, de la puissance montante El Hilal et du petit poussé égyptien de Smouha qui a sorti la Léopard de Dolizé.
La CAF a procédé au Caire au tirage au sort du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Là, il s'agit, si je comprends bien, des équipes reversées de la Ligue des Champions.
Oui, on relève des chocs. Hein. Choc Al Ahly Club Africain et Raja Casablanca S Sahel. L'AS Tunis de Tunisie affronte les Ghanéens de Hearts of Oak. Le Warri Wolves du Nigeria joue contre les Congolais de l'AS Léopard de Dolizé. Le CS Faxien de Tunisie affronte l'ASEC Mimosa d'Abidjan. Nos amis de l'AS Vita Club de la RDC jouent contre le Stade Malien. L'AS Kaloum de Guinée affronte donc l'Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Et Sanga Balende de la RDC affronte le Zamalek d'Égypte.
Football européen, demi-finale aller de la Ligue des Champions.
Oui, la Juve de Turin et le Real Madrid tenant du titre entament les hostilités. Eh bien, Chérubin, ce soir à Turin, suivi demain du choc Barça à Bayern à Barcelone. Du beau spectacle en perspective avec des clubs habitués de cette phase de la compétition en dehors de Turin. De retour après 12 ans d'absence.
Attention aux Brésiliens. Le réchauffement des relations entre Cuba et les États-Unis se poursuit cette fois-ci dans le domaine sportif.
Oui, en effet, une équipe cubaine de lutte arrivera le 21 mai à New York pour affronter les lutteurs américains en match d'exhibition à Times Square. Au programme, la lutte libre et gréco-romaine, hommes et dames.
Nous fêtons encore ici à Washington la victoire de Washington Wizards aux dépens de Toronto et aussi en premier match aux dépens d'Atlanta. Cependant, parlons ce soir de la conférence Ouest NBA.
Voilà, les Los Angeles Clippers, pourtant privés de leur vedette Chris Paul, se sont imposés à Houston 117 à 101. Les Chicago Bulls sont allés gagner chez les Cleveland Cavaliers de LeBron James 99 à 92.
Là, nous sommes à l'Est.
Voilà, là, à l'Est, oui, avec 25 points de Derrick Rose, 21 de Paul Gasol et 20 de Jimmy Butler, qui a marqué 7 des derniers 11 points de son équipe. Le match numéro 2 chez Rubin ce mercredi sera encore joué à Cleveland. Et qu'en est-il de San Antonio?
Vous ne cessez de parler de San Antonio. On ne peut pas gagner tout le temps, Bagassi.
Non, je ne sais pas. Ils sont rentrés où?
Bon, l'équipe avait des difficultés. Et les Clippers, quand même, il faut reconnaître que c'est une bonne équipe.
Ah, ok. D'accord. Donc, peut-être rendez-vous l'année prochaine, alors.
Et qu'en est-il des étalons?
Ben, c'est toujours
merci,
c'est les anciens
merci,
vice-champions d'Afrique.
Merci, Bagassi.
Les anciens vice-champions d'Afrique.
Bonne soirée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Romain Dorsil et Morgane Guiriec, place au dossier du jour.
Première escale, le Burundi. La Cour constitutionnelle a validé la candidature du chef de l'État, Pierre Nkurunziza, à un troisième mandat. Le vice-président de la Cour a refusé de signer cependant et a fui le pays. Les manifestations de détermination contre la candidature de Pierre Nkurunziza à la présidentielle en juin prochain. Idriss Fall a joint à Bujumbura, la capitale du Burundi, notre confrère Léon Massengo de la radio Bonécha. On l'écoute maintenant.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Une petite difficulté technique, on essaiera de revenir au Burundi un peu plus tard, Morgane. Et si l'on parlait maintenant du Mali?
Les rebelles de la Convention des mouvements de l'Azawad ont attaqué aujourd'hui la ville de Ténankou dans la région de Mopti. La semaine dernière, ils avaient justifié leur attaque de l'Éré par la prise de Ménaka par des groupes armés proches de Bamako. Pourquoi y a-t-il poursuite des hostilités alors que la signature de l'accord de paix est programmée pour le 15 mai? Idriss Fall a joint Al-Mouag Mohamed, porte-parole de la CMA.
C'est comme on l'a annoncé dans nos précédents communiqués, depuis l'attaque du 27 avril sur l'opposition à Ménaka par les milices pro-gouvernementales appuyées par l'armée malienne, nous avons demandé ce que nous considérons déjà, nous, CMA, comme étant une flagrante violation du cessez-le-feu en vigueur. Donc, nous avons demandé à toutes les parties engagées dans ce processus, l'ANMISMA aussi bien que le gouvernement malien et ses milices, de se retirer de Ménaka et de regagner des positions d'avant. Sans quoi, nous continuerons à mener des opérations pour justement amoindrir les effets de ces violations de cessez-le-feu sur nos hommes et sur les populations de l'Azawad. Nous nécessiterons, comme nous l'avons dit, de mener ces opérations jusqu'à ce que tout le monde se mette dans la tête qu'il doit respecter le cessez-le-feu, qu'il doit regagner ses positions.
Qu'en est-il de l'accord d'Alger dont on a dit qu'il doit être signé le 15 mai à Bamako?
Nous n'avons toujours pas parfait l'accord déjà. Nous venons juste de signifier un jour avant l'attaque sur nos positions à Ménaka par écrit aux représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies, notre OK pour le paraphe du document. Paraphe qui sera suivi, bien évidemment, de quelques discussions pour éclaircir certains points qui nous paraissent flous dans les documents avant la signature. Et juste après, les jours suivants, on nous attaque à Ménaka. Du coup, dans ce contexte actuel, nous ne pouvons pas envisager le paraphe, bien que nous ne revenons pas sur notre décision de partir, tant que la situation sur le terrain ne se stabilise pas.
C'est-à-dire, vous demandez que les Gatia se retirent de Ménaka?
Nous demandons que les Gatia et l'armée malienne, parce que pour nous, ce n'est pas seulement Gatia qui est à Ménaka. Nous demandons que les Gatia et les FAMA se retirent de Ménaka, sans condition. C'est un préalable à toute discussion ou à toute éventualité de paraphe du document. Pour nous, les opérations que nous menons en ce moment ne sont uniquement des opérations qui ont pour objectif de récupérer ou d'occuper de nouvelles positions, mais des opérations ciblées pour justement, comme je l'ai dit, apporter des réponses appropriées à toutes les violations de cessez-le-feu commises par Gatia et les FAMA dans la zone de Ménaka et environ.
Al-Mouag Mohamed, porte-parole de la Convention des mouvements de l'Azawad dans le nord du Mali.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Et comme promis, nous revenons au Burundi, où la Cour constitutionnelle a validé la candidature du chef de l'État, Pierre Nkurunziza, à un troisième mandat. Analyse de Léon Massengo de la radio Bonécha, au micro d'Idriss Fall.
C'est ce mardi dans l'avant-midi que l'arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu public. La délibération a été faite le 4 mai 2015 sur 6 pages. On note bien sûr que le président Pierre Nkurunziza a bel et bien le droit de se représenter à la présidentielle de 2015, c'est-à-dire au mois de juin 2015, et l'arrêt de la Cour constitutionnelle.
Apparemment, il y a un des juges qui s'est enfui.
Oui. Dans le document qui a été distribué aux différents médias, on note que le vice-président était présent lors de la délibération, mais il est clair qu'il n'était pas dans la délibération parce qu'il avait déjà fui le pays, le président de la Cour constitutionnelle, qui avait déjà fui vers le Rwanda, puis en disant qu'il avait fui pour des raisons de sécurité, parce qu'il avait reçu des intimidations, parce qu'opposé déjà à la troisième candidature de Pierre Nkurunziza. 6 juges sur 7 avec un greffier qui ont délibéré dans cette affaire d'interprétation de la Constitution.
Et qu'en est-il des manifestations à Bujumbura et dans le pays ?
Avant de parler peut-être des manifestations, il faut vous dire que les différents partis d'opposition, notamment la DC Kivili, les organisateurs de cette campagne ALT à la troisième candidature de Pierre Nkurunziza, ont vite réagi sur plusieurs médias ici au Burundi, disant que effectivement cet arrêt de la Cour constitutionnelle était nul. Et de nul effet.
Du coup, les manifestations ont continué alors.
Les manifestations ont continué pour cette deuxième journée après la trêve de samedi et dimanche. Et les manifestations étaient plus fortes qu'avant d'ailleurs, parce que après la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, les manifestants étaient vraiment très très déterminés et avaient plus de force et disaient que peu importe la décision, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, nous sommes déterminés, nous allons continuer à combattre pour le respect de la Constitution, le respect de l'accord d'Arusha. Voilà, c'est que dans plusieurs quartiers, il y a eu des blessés, il y a eu des personnes arrêtées, mais il faut signaler que la police s'est montrée de moins en moins violente, comme on l'avait observé ces derniers jours.
Notre confrère Léon Massengo de la radio Mbonesha à Bujumbura.
La Voix de l'Amérique au Burundi sur les ondes de la radio publique africaine 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Le président du Sénégal, Macky Sall, a décidé d'envoyer 2100 soldats sénégalais en Arabie Saoudite pour épauler Riyad dans son combat contre les rebelles au Yémen. Cette décision ne fait pas l'unanimité et a suscité un grand débat sur la toile. Idrissa Seydoudia a interviewé 2 personnalités sénégalaises dont les positions ont défrayé la chronique récemment, l'ancien général Mamadou Mansour Seck et le journaliste Madiambal Diagne.
Pour commencer, M. Madiambal Diagne, président du groupe de presse Avenir Communication, il discute ici de son éditorial de soutien à la décision du président Sall.
Le papier est intitulé « Une guerre lointaine mais si proche ». C'est dans le sens de montrer qu'en hésitant d'envoyer les troupes sénégalaises, non pas au Yémen, mais en Arabie Saoudite, parce que la décision du Sénégal est très précise, ils ont décidé d'envoyer 2000 soldats en sol saoudien pour servir de base arrière en cas d'incursion de forces hostiles sur le territoire saoudien. Et j'ai estimé que c'est renforcer l'alignement diplomatique du Sénégal dans la région. Parce que tout le monde sait que dans ce contentieux, il s'agit d'une guerre régionale qui oppose l'Iran à l'Arabie Saoudite et aux autres Émirats arabes du Golfe. Le Sénégal ne peut pas faire la sourde oreille devant un appel lancé par l'Arabie Saoudite parce qu'on sait que l'Iran a des visées sur le Yémen. Une fois le Yémen tombé dans l'escarcelle de l'Iran, ce seront les autres monarchies arabes du Golfe qui seront sous la menace, disons, d'une déstabilisation. Et nous savons que ici au Sénégal, nous avons une mauvaise expérience avec l'Iran qui nous a fait un bébé dans le dos en armant Yahya Jammeh qui avait dirigé ses armes-là contre le Sénégal et ce qui avait justifié d'ailleurs que le Sénégal eut à geler ses relations diplomatiques avec l'Iran. Et donc, ne serait-ce que de ce point de vue stratégique, nous avons intérêt à conforter des régimes comme l'Arabie Saoudite au détriment d'un régime iranien.
Le journaliste sénégalais Madiambol Diagne, président du groupe de presse Avenir Communication. Pour sa part, l'ancien chef d'état-major général des armées et ex-ambassadeur du Sénégal aux États-Unis, le général Mansour Seck, met en garde contre les risques inhérents à cette décision, dont les représailles de groupes terroristes. Il craint un vide sécuritaire dans un pays dont l'armée aux effectifs réduits a déjà 4 contingents déployés en Guinée-Bissau, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Darfour, au Soudan, outre les gendarmes et policiers en RCA et Haïti.
Nous, Sénégalais, on s'est quand même manifesté contre le terrorisme de plusieurs manières. D'abord, nous avons envoyé un contingent à Kidal, au nord du Mali, contre eux. On a assisté, notre président a assisté à la réunion à Paris l'année dernière contre le terrorisme. Ensuite, nos autorités ont décidé tous les ans d'abriter à Dakar une conférence pour la paix et la sécurité, surtout contre le terrorisme, et ainsi de suite. Alors, toutes ces initiatives qu'on a prises peuvent être considérées par les terroristes comme une marque d'animosité contre eux. Et encore une fois, ce sont des gens qui peuvent être dans des réseaux dormants, ils peuvent être dans nos banlieues, ils peuvent être dans des endroits. Et surtout, maintenant, nous avons même des Sénégalais, c'est-à-dire des Sénégalais qui sont actuellement entre la Syrie, la Turquie, là où il y a le Daesh, etc., qui recrutent, etc.
Le général Seck trouve que le Sénégal doit surtout faire face aux menaces nouvelles de ce monde.
Des menaces de terroristes qui sont des nébuleuses. Leur arme principale, c'est la surprise. Et dans un pays démocratique, on ne met pas de gendarmes partout. Ils utilisent les faiblesses, que ce soit du point de vue religieux. D'autre part, ces terroristes considèrent que les pays qui se signalent en se levant contre eux, ils les punissent d'une certaine manière.
C'était le général Mansour Seck, ancien chef d'état-major général des armées et ex-ambassadeur du Sénégal aux États-Unis.
Nouveau numéro de Washington Forum consacré ce jeudi à la police américaine. Une nouvelle fois, un Africain-Américain est mort entre les mains de la police, cette fois à Baltimore. L'histoire se répète donc dans l'Amérique post-raciale de Barack Obama. Qu'en pensez-vous ? Laissez vos commentaires sur notre page Facebook et à jeudi 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Le président Obama a annoncé une nouvelle phase de son initiative en faveur des communautés défavorisées. Il s'est rendu hier à New York pour lancer l'ONG My Brother's Keeper Alliance, l'alliance gardienne de mon frère, Timothée Donagmaye.
Le nouveau programme est similaire à celui lancé en 2014 par le président Obama. Il s'agit, a dit le chef de l'exécutif, de tout faire pour garantir des chances égales à tous ceux qui sont désireux de travailler. L'initiative gouvernementale a mobilisé 500 millions de dollars à ce jour pour des subventions devant aider à éduquer les jeunes noirs et les latinos. L'annonce du président Obama intervient au moment où des communautés africaines-américaines manifestent contre ce qu'elles perçoivent comme étant un enracinement de la discrimination raciale aux États-Unis.
Across the country and in parts of New York,
partout à travers le pays, dans certaines parties de New York, du New Jersey, de ma ville de Chicago, il y a des communautés qui ne disposent pas d'assez d'emplois, d'assez d'investissements, d'assez d'opportunités. Vous avez des communautés avec 30, 40 ou même 50 % de chômage. La plupart des Américains comprennent que le succès d'une nation dépend de la réussite de ses jeunes, a souligné le président Obama.
They know that if you've got African American or Latino men here in New York,
ils savent que si vous avez des Africains américains ou des Hispaniques ici à New York qui, au lieu d'aller en prison, vont à l'université, ceux-là deviendront des contribuables. Ils vont aider à construire nos communautés. Ils rendront nos collectivités plus sécurisées. Ils ne font pas partie du problème, ils font potentiellement partie de la solution si nous les traitons comme tels, a dit le chef de l'exécutif américain. L'alliance basée à New York offrira des stratégies mesurables pour aider à éliminer les lacunes raciales qui affectent l'économie et la société américaine, a déclaré de son côté David Williams, PDG de la firme Deloitte Financial Advisory Services.
We will focus on and champion strategic evidence-based interventions from community, private, public and social.
Nous allons nous concentrer sur des interventions stratégiques prouvées venant de la communauté, des secteurs privés et publics et de l'entrepreneuriat social, des partenariats qui s'attaquent globalement à ces lacunes dès le berceau jusqu'à une carrière. Notre idée simple est de mettre le rêve américain à la portée de tous, a fait savoir David Williams.
Voilà.
Ainsi s'achève cette édition. Lionel Gaïma à la mise en onde, Morgane Diriac et Chérubin Dorcil à la présentation. Ainsi va Le Monde aujourd'hui.